au-dessous de vous et s'étirant au loin vers la droite, l'étincelante pureté du lac, à peine froissée par la brise, suffisamment pour montrer qu'il est vivant, reflétant les rochers, les bois et les champs et le sommet renversé des montagnes. Puis les bâtiments blancs de Keswick, l'église de Crosthwaite et Skiddo en guise d'arrière-plan à une certaine distance. Ah, docteur, j'admets, je ne vous ai autant regretté. Et songez combien le miroir a joué son rôle dans cet endroit que l'on nomme Carf, près des roseaux. J'ai choisi de transcrire ces noms barbares afin que quiconque puisse s'enquérir de l'endroit et trouver aisément la position dont je parle. Ce spectacle se prolonge jusqu'aux portes de Barrow et un peu plus loin, en passant un ruisseau nommé Rue de Barrow, nous entrâmes dans Borrowdale. Les roches escarpées que l'on nomme berges de Lodore commencent alors à peser terriblement sur votre route. Et plus terriblement encore, quand vous apprenez que 3 ans auparavant, une masse immense de rochers s'effondra d'un seul coup depuis le sommet et barra tout accès à la vallée, car c'est la seule route, jusqu'à ce que l'on puisse ménager un chemin au travers. Par chance, personne ne passait par là au moment de cette chute. Mais au bas de la pente et loin dans le lac, gisent dispersés les énormes fragments de cette ruine, de toutes les formes et dans toutes les directions. Un peu plus loin, nous avons bifurqué dans un taillis et sommes montés un peu en face de la chute de Lodore. Sa hauteur paraît être environ de 200 pieds. L'eau est peu abondante, bien que, excepté ces derniers jours, il ait plus quotidiennement sur les collines durant près de 2 mois. Mais alors, le torrent se brisait avec noblesse, bondissant de rocher en rocher, écumant avec furie. D'un côté, une roche est lancée dont la flèche égalait, voire dépassait les falaises environnantes, le tout plongé dans l'ombre et l'obscurité. De l'autre, une colline proéminente, arrondie et plus large, toisonnée de bois et illuminée par le soleil, dont les rayons obliques frappaient la partie haute de la cataracte. Creusant un profond chenal dans le sol, la chute d'eau s'empresse d'aller rejoindre le lac. Nous sommes redescendus et avons passé le torrent sur un pont grossier. Bientôt nous arrivâmes sous la roche de Gowder, une colline plus redoutable pour l'œil et pour l'esprit que celle de Lodore. Les rochers du sommet, fendus de haut en bas par les pluies, suspendus et branlants, semblaient prêts à voler en éclats. Dans la descente, la route est parsemée des deux côtés de fragments empilés, étrangement jetés les uns sur les autres, et d'horribles corpulences. L'endroit évoque un de ces passages des Alpes, où les guides vous disent d'avancer rapidement et sans rien dire, de peur que l'agitation de l'air ne libère la neige des hauteurs et ne précipite sur la caravane une masse qui la submerge. J'ai suivi leurs conseils et me suis hâté en silence. « Non ragionam, dit l'or, ma guarda e passa. » Ça, c'est une citation de l'enfer de Dante. En français, c'est « Ne discourons point d'eux, mais regarde et passe. » Un moment où Virgile, guidant Dante, passe près de ce qu'on appelle les indolents. Et donc, il lui dit de passer en silence. Je ne sais pas, il reste un peu de temps. Vous voulez que je continue un peu? Je vais continuer. C'est la suite de la promenade, mais c'est posté dans une lettre différente. Donc c'est pour ça que je me suis interrompu. Puisque ce journal parvient par lettre à son destinataire sous forme d'épisode. 3 octobre, donc suite, le même jour. Les collines ici sont entièrement vêtues de chênes, de frênes, de bouleaux, de houx, etc. jusqu'en haut de leurs flancs escarpés. Une partie a été coupée il y a 40 ans, une autre au cours des 8 dernières années. Pourtant, tout a repoussé, vert et fleurissant, déjà haut pour son âge, dans un endroit qui ne présente d'autre sol que la roche hirsute et où un homme pourrait à peine se tenir debout. J'ai rencontré un jeune fermier fort civil surveillant ses moissonneurs, car c'est la récolte de l'avoine. Il nous a conduits à une maison blanche et propre dans le village de Grange, construit sur une pente au milieu d'une vallée. Autour de lui, les montagnes forment un amphithéâtre effroyable, au milieu duquel s'écoule le Derwent, clair comme le verre, laissant voir sous ses ponts chaque truite qui passe. À côté du village s'élève une éminence rocheuse arrondie, entièrement couverte de vieux arbres, et au-delà se dresse plus fièrement Castle Crag, investi lui aussi de bois sur ses flancs et portant sur son sommet dénudé certaines traces d'un fort que l'on dit romain. Longeant le flanc de cette colline, qui bloque presque le chemin, la vallée tourne à gauche et se contracte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus guère d'autre route que le lit de la rivière. Le bois des montagnes s'épaissit et leurs cimes s'agrandissant à vue d'œil prennent des formes plus fantastiques. Parmi elles apparaissent la falaise de l'Aigle, le nid de la Colombe, le pic de la Vallée Blanche, etc. Autant de noms célébrés dans les annales de Keswick. La vallée s'ouvre environ 4 miles plus haut jusqu'à ce que vous arriviez à Seawaite, où se trouve le chemin qui grimpe les collines vers la droite et conduit aux mines de graphite. Tout accès plus avancé est ici barré aux mortels indiscrets. Il y a seulement un petit sentier serpentant par-dessus les fells, praticable par les hommes de la vallée quelques semaines par an. Mais les montagnes savent bien que ces gens innocents ne révéleront pas le mystère de leur antique royaume, le règne du chaos et de la vieille nuit. Néanmoins, j'ai appris que cette effroyable route, se divisant de nouveau, mène pour l'une de ses branches à Ravenglass et pour l'autre à Oxhead. Pour ma part, je ne suis pas allé plus loin que la demeure du fermier Agrange, à plus de 4 miles de Keswick. Sa mère et lui nous apportèrent du beurre, sur lequel se serait jeté Sisera, bien qu'il ne fût pas servi dans une coupe d'honneur, des bols de lait, de minces gâteaux d'avoine et de la bière. Et nous avions emporté avec nous une langue froide. Notre fermier était l'homme en personne qui, l'an dernier, avait pillé l'aire de l'Aigle. Toutes les vallées sont sur le pied de guerre pour cette occasion, car elles perdent quantité d'agneaux chaque année, sans parler des lièvres, perdrix, grouses, etc. Il fut descendu de la falaise avec des cordes jusqu'à la saillie rocheuse sur laquelle était construit le nid. Les gens au-dessus, tirant et hurlant pour effrayer les adultes qui volaient alentour, en poussant des cris, mais n'osaient pas l'attaquer. Il retira l'aiglon, car il y en a rarement plus d'un, et un œuf sans germe. Le nid était circulaire et large de plus d'un yard, fait de brindilles entortillées. Rarement passe une année sans qu'il prenne la progéniture ou les œufs, et parfois il tue l'un ou l'autre parent. Mais le survivant trouve toujours un partenaire, probablement en Irlande, et il couve près de l'ancien emplacement. D'après sa description, j'apprends que cette espèce est l'orfraie, le vultur albicilla de Linné dans sa dernière édition, mais dans la vôtre, le falco albicilla. Vous pouvez vous y référer ainsi qu'à Pennant. Au retour, j'ai marché tranquillement jusqu'à la maison, par le chemin que nous avions emprunté, mais je vis un nouveau paysage. Les éléments étaient en partie les mêmes, mais nombre d'entre eux étaient révélés par le soleil de midi et les teintes étaient entièrement changées. Notez que c'était le meilleur ou peut-être le seul jour pour l'ascension du Skiddaw, mais je l'ai trouvé mieux employé. Il était parfaitement serein et chaud comme au cœur de l'été. Le soir, j'ai marché seul jusqu'au lac en longeant Crow Park après le coucher du soleil. Je vis s'avancer les couleurs solennelles de la nuit, les dernières lueurs du soleil s'évanouissant au sommet des collines, la sérénité profonde des eaux et les longues ombres des montagnes jetées sur elles jusqu'à ce qu'elles frôlent la rive la plus proche. Dans le lointain, j'ai entendu le murmure de nombreuses chutes d'eau inaudibles dans la journée. J'ai espéré la lune, mais elle resta, obscure et silencieuse, cachée dans le vide de sa grotte céleste. Voilà.